franceinter.fr.
Et une découverte exceptionnelle à la une de la science aujourd'hui avec le lion des cavernes, l'un des plus grands prédateurs de la préhistoire.
Sur ce manteau de neige, un lion paraît déplacé. Le lion des cavernes est pourtant un animal familier des paysages de l'Europe. La protection d'un mammouth adulte est un obstacle redoutable, mais le lion continue sa traque, prêt à bondir dès que la mer baissera la garde.
Et on a retrouvé le lion des cavernes. Pour en parler avec nous, Philippe Foss, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne depuis Toulouse, vous êtes paléontologue au CNRS, spécialiste des grands carnivores du Quaternaire. Alors on en parlait pas plus tard que lundi dernier, le permafrost sibérien fond. C'est très inquiétant évidemment pour le climat, mais pour les paléontologues comme vous, c'est plutôt une aubaine, puisque deux spécimens de lion des cavernes ont été découverts en Yakoutie, donc une région de la Sibérie. C'est vraiment une trouvaille inespérée aujourd'hui ?
Inespéré, oui, parce que il y a très longtemps que l'on découvre des cadavres congelés dans le nord de la Sibérie, mais autant on a trouvé beaucoup de mammouths, de rhinocéros laineux ou de bisons, et on n'a jamais découvert un lion des cavernes complet. C'est la deuxième découverte, on va dire, de lion des cavernes dans ce type un peu de contexte. Il y a 2 ans, 3 ans, on a trouvé un squelette de lion des cavernes avec un petit peu de poils conservés, quelques centimètres carrés de sa fourrure préservée, ainsi que quelques griffes, mais jamais auparavant on n'a pu découvrir donc un lion complet qui devrait nous permettre de restituer son aspect physique très très rapidement maintenant.
Quand on fait ce genre de découverte, c'est une véritable course contre la montre. Il faut faire très vite. Comment s'organisent les scientifiques ?
Alors effectivement, il y a la course contre la montre parce qu'il s'agit avant tout de conserver, puisque c'est un miracle de la nature que des cadavres soient complètement congelés, se préservent au fil du temps, durant des dizaines de milliers d'années. Donc si vous voulez, il y a, une fois que les autorités sont contactées, les scientifiques, il y a, en Yakoutie notamment, quelques centres qui sont destinés à conserver ces cadavres congelés pour que les experts du monde entier, russe dans un premier temps j'imagine, puis après une coopération internationale vraisemblablement, puisse venir étudier ce lion des cavernes dans les meilleures conditions.
Alors quelle est la datation de ces lions, Philippe Foss ?
Alors à ce jour, il ne semble pas qu'il y ait une datation directe radiocarbone sur ces deux lionceaux précisément. Je pense que c'est un travail qui doit être en cours, des échantillons ont dû être prélevés pour qu'on puisse envisager un âge direct. Néanmoins, le lion des cavernes, l'espèce ou la sous-espèce, il y a un débat depuis maintenant 200 ans pour savoir quel est le statut spécifique de ce grand félin des cavernes. Mmh. Néanmoins, le lion des cavernes a disparu à l'échelle de l'Eurasie il y a à peu près 11 000 à 10 500 ans.
Mmh. Alors, ils se trouvaient dans quel état exactement quand on les a retrouvés là ?
Alors apparemment, pour autant qu'on puisse en juger d'après les photos qui ont été transmises par l'Académie des sciences russes, ce sont des jeunes donc lions des cavernes, des nouveau-nés ou des bébés lionceaux, qui sont bien préservés pour l'un des deux, puisqu'on a absolument la fourrure intacte sur toutes les parties du corps. Le cadavre ne paraît pas trop ni écrasé, ni comprimé, enfin ni altéré. Donc il y a de bonnes raisons de croire qu'on va pouvoir mener énormément d'études sur ces deux carcasses congelées.
Le fait de pouvoir observer pour la première fois de la chair et des poils, quelle découverte on peut en espérer ?
Bien, si vous voulez, c'est une étude qui va pouvoir se faire d'ordre la reconstitution, j'allais dire plastique, l'aspect physique de ce prédateur, puisque jusqu'à présent, autant on dispose d'énormément d'ossements, de squelettes qui ont pu être découverts à travers toute l'Eurasie et même en Amérique du Nord, puisque c'est une espèce qui a traversé le détroit de Bering et qui a été retrouvée en Alaska et dans le Yukon. Donc autant on a pu estimer un peu sa hauteur au garrot, sa masse corporelle, enfin bref, des données quantitatives sur le squelette. Pour restituer son apparence physique extérieure, on est tributaire jusqu'à présent, on était tributaire des représentations d'art préhistorique, puisque les hommes du Paléolithique supérieur, dans les grottes, notamment en France, ont figuré cet animal très 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 dangereux pour le Paléolithique supérieur.
On pourra savoir s'il a des rayures ou des taches ?
Oui, ça fait partie un peu des débats concernant la restitution physique de cet animal. On pense, puisque si vous voulez, pour restituer un peu l'aspect physique d'animaux disparus, on se fonde d'une part sur les représentants les plus proches actuels, donc les lions vivant dans des contextes extrêmement variés, que ça va depuis la forêt jusqu'à la savane en passant par des zones désertiques. Donc il y a des adaptations à ces différents milieux. Et effectivement, on a une très grande variabilité à la fois dans la robe, la couleur de la robe, la densité de la crinière, etc. Donc on espère cette fois-ci, avec cette découverte vraiment importante, pouvoir restituer au mieux, au plus juste, l'aspect extérieur de la robe des lions des cavernes, qui devrait être plutôt uni, fauve, sans trop de rayures, puisque c'est un animal qui évolue dans des milieux ouverts. C'est le prédateur par excellence de la toundra steppe de l'hémisphère nord. Et donc on s'attend à pouvoir comparer les résultats que l'on aura à partir de la lecture de ce cadavre avec les représentations d'art préhistorique qui sont figurées dans les grottes, notamment de France et d'Espagne.
Oui, donc là, il va falloir extrapoler parce que vous avez des lionceaux, donc imaginez à quoi ils pouvaient ressembler une fois adultes.
Voilà, donc la découverte porte sur des juvéniles, sur des animaux non adultes. Donc c'est sûr que la robe au fil de l'âge évolue un peu. Néanmoins, jusqu'à présent, on n'avait pas ce genre d'informations d'ordre, j'allais dire, d'ordre paléontologique. Donc là, c'est vraiment, oui, vraiment inespéré. Et on va pouvoir partir de l'aspect de cette fourrure pour des animaux dont on va estimer l'âge individuel. J'imagine que des études vont être faites de scans, de tomographie, des radios pour estimer l'âge réel de ces lionceaux, et à partir de là, on pourra savoir un peu quelle aurait pu être ou quelle devrait être la fourrure à l'état adulte.
Si on le compare à des lions actuels, quelle taille faisait-il ?
Alors, les lions des cavernes sont des animaux qui ont évolué en taille à travers tout le Pléistocène, mais les lions des cavernes, les derniers lions des cavernes, grosso modo, durant les derniers 30 millénaires, avaient une taille un peu supérieure aux lions d'Afrique actuels, modernes, à peu près 15 à 20%.
Sachant
qu'il y a une différence de taille assez importante entre les mâles et les femelles, le dimorphisme sexuel est important chez les prédateurs solitaires, et donc on estime le poids moyen d'un lion adulte des cavernes entre 300 et 400 kilos, donc supérieur à ce que l'on peut observer en Afrique de l'Est ou en Afrique subsaharienne aujourd'hui, et pour les femelles, un poids d'environ 200 à 250 kilos. C'est un poids moyen à partir de ce que l'on peut déduire comme information sur les squelettes.
Donc mieux ne valait pas les croiser dans les cavernes, visiblement.
Ni dans les cavernes, ni
ailleurs,
en plein air.
Ni à l'extérieur, effectivement. Il y a plein de questions qui restent élucidées, hein, je crois, sur en particulier leur capacité à supporter des conditions extrêmes, hein.
Oui, c'est l'animal emblématique de la grande faune glaciaire en ce qui concerne les prédateurs, puisque aucun autre, on pense souvent à l'hyène des cavernes ou l'ours des cavernes, si ce sont deux espèces qui sont très très abondantes dans nos régions à nous du sud de l'Europe, mais le lion des cavernes est le seul qui ait colonisé les latitudes les plus septentrionales, et donc effectivement à travers l'étude, je pense, de la fourrure, on pourra bien mieux connaître quelles étaient les adaptations qu'il a développées, que l'espèce a développées au fil du temps pour s'adapter à ces climats extrêmement rudes dont l'amplitude thermique devait être très très forte, de plus certainement de 62 ou 70 degrés Celsius.
On en parlait en introduction, la fonte des sols gelés en Sibérie. Est-ce qu'on peut imaginer une ruée vers les fossiles dans les années qui viennent ?
Je dirais oui et non. Oui, c'est évident parce que maintenant il y a des ouvertures, et notamment dans ces régions du nord-est sibérien dont on sait, puisque en cartographiant toutes les découvertes récentes ou plus anciennes de cadavres congelés, on sait que c'est une zone particulièrement riche et donc qui est suivie, qui est contrôlée, je dirais. Et non, parce que si vous voulez, on a également trouvé depuis 200 ans à peu près 100 cadavres momifiés de différentes espèces. Donc maintenant, ce qu'il faut absolument, ce qui se met en place de manière presque automatique, c'est une concertation entre les découvreurs, des villageois ou bien des personnes qui n'ont rien à voir avec la recherche, mais les découvreurs généralement font part de leur découverte aux chercheurs, et se met en place immédiatement la politique de conservation et d'étude qui est primordiale pour avoir une meilleure connaissance du comportement ou de l'aspect général d'espèce quand cette espèce est éteinte.
Très vite, une dernière question, Philippe Fauss, on pourrait cloner ces lions des cavernes ou pas ? Est-ce qu'il y a encore de l'ADN utilisable ?
Oui, alors tout dépend. On va attendre le résultat des dates radiocarbone, mais néanmoins, on attend avec vraisemblable probabilité une date entre 15 et 30 000 ans, peut-être qu'il serait un peu plus ancien. Cloner, oui, on peut le faire. Ça fait partie des fantasmes des chercheurs, puisque toute cette faune du Grand Nord qui a disparu à tout jamais, on aimerait la faire revivre dans un petit coin du nord-est de la Sibérie. Attendons, les techniques ne sont pas encore fiables à 100%. Bon. C'est encore un rêve de chercheur.
Merci pour vos explications, Philippe Fauss, à la suite de cette découverte donc en Russie de deux lionceaux des cavernes. Axel, on peut retrouver cette chronique sur franceinter.fr.
À partir de 15h, quand le podcast sera en ligne.
Merci beaucoup. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les parasites intestinaux sont-ils bons pour le système immunitaire? Cette drôle d'hypothèse est en ce moment explorée très sérieusement par une équipe de chercheurs suisses. Lors de leur passage dans l'intestin, les Ascaris et autres Ténia tissent en effet une relation étroite avec le système immunitaire de leur hôte, une forme de symbiose qui permet de le réguler de manière bénéfique. En plus de leurs vertus anti-inflammatoires, la présence des vers induit la production d'acides gras qui améliore l'activité immunitaire. Il y a encore certes du chemin à faire, mais cette recherche ouvre de nouvelles possibilités intrigantes, notamment dans le traitement de l'asthme allergique, a expliqué Nicolas Harris, qui dirige ses travaux pour l'école polytechnique de Lausanne. D'ici la fin du siècle, le golfe Persique pourrait bien devenir inhabitable en raison de l'augmentation extrême des températures. Cette région qui comprend l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, l'Iran ou le Qatar est déjà un des lieux les plus chauds du globe. Mais selon une étude récente, l'avenir est encore bien pire, avec des étés à 45 degrés en moyenne qui sont à venir et des pics de chaleur humide proches des 80 degrés Celsius. De quoi tuer un homme en quelques heures seulement. Et puis pour finir, des fleurs à perte de vue dans le désert. C'est la photo du jour, le désert d'Atacama, un des lieux les plus secs de la planète. Il y tombe en moyenne moins de 2 cm d'eau par an. Mais en mars dernier, l'équivalent de 7 années de pluie est tombé en moins de 12 heures. Il n'en fallait pas plus pour réveiller des centaines de millions de graines endormies depuis des années sous le sable. Le résultat capté et publié par le photographe Mario Ruiz est impressionnant. Des kilomètres carrés de plaine désertique couverte de fleurs rose fuchsia. Et cette photo est à retrouver en ce moment même sur la page Facebook de la Tête au Carré.